Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups. Présentée par Bérénice Deville sur Cowork la radio.
Et bonjour à tous, bienvenue dans Objectif Startup, l'émission dédiée aux startups. Si vous vous posez des questions, voilà, sur une startup, si vous avez envie de découvrir l'univers des startups, cette émission est faite pour vous. Comme chaque semaine, je reçois un fondateur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Philippe de Gouville. Bonjour.
Bonjour.
Fondateur d'Ismo.
Oui, c'est cela.
Ismo, l'application pour investir tous les jours sa petite monnaie.
Exactement, pas que, mais c'est le principe fondateur, c'est celui-là. Donc Ismo, ça veut dire Invest Small Money. Et Ismo, c'est une application en fait qui permet de démocratiser l'accès aux marchés financiers. Alors, grâce à des virements ponctuels ou réguliers, mais surtout grâce à l'arrondi des dépenses que vous pouvez faire avec votre carte bleue, on va investir très régulièrement. Et surtout, ça se fait sans montant minimum. C'est-à-dire que vous pouvez commencer avec 1 euro, 2 euros, 5 euros. Il n'y a pas de montant minimum comme on peut le trouver par ailleurs souvent dans l'investissement. Donc voilà. Donc comment ça se passe concrètement? Alors, vous connaissez l'expression il n'y a pas de petits profits. Eh bien, on peut dire avec Ismo, il n'y a pas de petits investissements. C'est vraiment le principe fondamental. C'est-à-dire, vous faites des dépenses avec votre carte bleue. Toutes les actions que vous faites avec votre carte bleue vous permettent d'épargner. Vous achetez du pain, vous faites vos courses, vous allez au restaurant. Alors, je peux prendre cet exemple. Par exemple, quand l'addition arrive, mettons que vous ayez à payer 17,30 euros, on va arrondir 70 centimes et Ismo va se charger d'investir ces 70 centimes directement dans un fonds d'investissement.
Alors, juste comment ça se passe? Parce que, bon, là, imaginons, j'ai une carte bleue, déjà, que j'utilise tous les jours. Je télécharge l'application sur mon portable, donc sur Android ou sur iPhone.
Oui.
Je connecte ma carte bleue ou j'ai besoin de changer de carte bleue?
Alors, pas du tout. L'inscription se fait en trois étapes. La première étape, c'est celle qui va permettre de déterminer qui vous êtes.
Et quel est,
quel est votre mode d'épargne privilégié? Est-ce que vous êtes prudent ou est-ce que vous êtes plutôt agressif dans vos placements? Vous êtes prêt à supporter du risque ou pas?
Il y a trois profils comme
Il y a trois profils.
Partout.
Il y a un profil prudent, un profil équilibré et un profil dynamique. On pourra y venir un petit peu tout à l'heure parce que c'est assez significatif, le comportement de nos utilisateurs. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous reliez votre compte bancaire à Ismo.
D'accord.
OK. Donc, vous donnez le droit à Ismo de lire vos transactions pour pouvoir calculer les arrondis. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est de fournir les éléments, les pièces d'identité qu'on saisit directement depuis l'application. Donc on photographie sa pièce d'identité. Et puis ensuite, il y a un opérateur chez nous qui, en quelques minutes, va valider votre compte. Et ça y est, c'est parti.
Donc c'est très simple, très facile, très rapide.
Oui, en quelques minutes, vous vous inscrivez en quelques minutes, et puis non, c'est très simple, c'est un peu comme d'ailleurs dans beaucoup d'applications bancaires maintenant, où on peut ouvrir des comptes assez vite, des néobanques, et c'est exactement le même principe finalement. Il y a une phase réglementaire, il y a une phase de conseil, et puis ensuite, on valide, et c'est parti.
Et alors, où va l'argent?
Alors, pour Ismo, c'est une application, c'est un service. Derrière, il y a une société de gestion qu'on a créé spécialement pour ça. On est des anciens gérants, on a un passé très important dans cette activité. Et on a créé donc une société qui s'appelle Wide Asset Management, qui gère trois fonds. Un fonds prudent, un fonds équilibré et un fonds dynamique. Ces fonds sont extrêmement diversifiés, puisque chacun sont exposés à plus de 1000 actions ou obligations, avec en plus un petit côté socialement responsable. C'est-à-dire qu'on va privilégier les investissements qui respectent la nature ou qui favorisent la transition énergétique.
Et en termes de pourcentage, ça représente combien des actions, l'ISR?
Alors, en fait, c'est 100%. C'est-à-dire que toutes nos actions sont ISR, et pratiquement même toutes les obligations le sont.
D'accord.
Il n'y a guère que les obligations d'État, où finalement entre l'État français ou l'État allemand, on ne se met pas d'accord exactement sur ce qui est socialement responsable ou pas, qu'est-ce qui favorise l'environnement ou pas. Mais bon, globalement, c'est ça. Évidemment, un particulier aura beaucoup de mal à répliquer ce type de gestion, parce qu'il faudrait engager des montants plus importants. Donc il y a tout intérêt à le faire comme ça. Et surtout, avec Ismo, vous n'avez plus besoin de lire la presse financière tous les jours pour investir, pour savoir s'il est bon d'investir ou pas. Nous, on s'occupe de ça pour vous, finalement.
Ouais, la société de gestion le fait pour les clients.
Oui, parce que Ismo, c'est un produit, c'est un service pour ceux qui veulent se constituer une épargne à long terme. Et on assume complètement cet état de fait, c'est-à-dire que On ne fait pas de trading, on ne cherche pas à...
Les plus grosses performances, mais c'est sur du long terme, en fait.
Exactement.
D'ailleurs, c'est une de vos promesses, permettre aux plus jeunes de mieux préparer leur avenir.
Oui, complètement. Il y a une grande partie de la population française qui n'épargne pas. La moitié de la population française épargne moins de 50 euros par mois, et le plus souvent, dans des produits qui ne sont pas rémunérateurs. Donc il y a un vrai fossé qui s'est créé en France entre ceux qui ont pu investir dans des produits financiers dynamiques, qui ont fait x2 en 10 ans, et ceux qui finalement sont restés sur des livrets et qui, du coup, ont plutôt perdu en pouvoir d'achat. Mmh. Et actuellement, avec l'inflation qui arrive, c'est un enjeu fondamental.
Du coup, mettre chaque jour un petit peu, ça permet de lisser sur le long terme, au final.
Alors, ça permet de lisser sur le long terme. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que, comme on cherche à fournir ce service à des gens qui ont, à des primo-épargnants, finalement, la meilleure façon de faire, c'est de leur mettre le pied à l'étrier. Parce que vous allez me dire, les arrondis, ça ne fait pas beaucoup au début.
Non, c'est ce que j'allais dire, oui.
Effectivement, ça ne fait pas énormément, mais c'est important de commencer...
Enfin, ça dépend si on dépense beaucoup ou pas avec sa carte bleue aussi.
Oui, bien sûr, mais en général, les gens font entre 100 et 300 cartes par an. C'est à peu près
c'est la moyenne.
Oui, la moyenne. Mais on leur met le pied à l'étrier, comme ça, ils vont comprendre. Ils vont d'abord voir que ce n'est pas fait pour des gens initiés, forcément, la bourse. On peut y aller, il faut y aller, parce que à long terme, à 10 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y a rien qui rapporte plus. Ça rapporte plus que l'immobilier. Donc, il faut absolument que...
Ça dépend sur quoi on mise aussi.
Non, pas vraiment. Si vous regardez historiquement, les performances globales des marchés sont, par exemple, 10%, plus 10% par an depuis 10 ans, sur 20 ans, pareil, 10%, sur 30 ans, 14% par an. Enfin, c'est les rendements qui sont très importants. En revanche, c'est certain, la bourse, ça baisse.
Bien sûr.
Il y a des chocs.
Il faut attendre que ça remonte.
Oui. Alors, il faut attendre que ça remonte. Il faut surtout investir régulièrement. Il n'y a pas pire que de sortir quand ça se met à baisser. Et pour ça, nous, on conseille évidemment d'investir plutôt régulièrement des petits montants. Comme ça, c'est indolore. Vous ne vous en rendez pas compte, finalement. La meilleure épargne, c'est celle dont on ne s'occupe pas.
Et puis l'argent travaille.
L'argent travaille.
Quand ça baisse, mais ça remonte après.
Et ça finira par remonter.
On ne s'en soucie pas.
Bien sûr.
Justement, là, on traverse actuellement une crise à cause de ce qui se passe en Ukraine. Oui. Est-ce que vos clients, justement, s'inquiètent? Est-ce que vous avez eu des coups de téléphone? Est-ce qu'ils vous ont contacté? Est-ce qu'ils ont besoin d'être rassurés?
Alors, c'est très intéressant, cette question. Parce qu'en fait, on a un rôle de pédagogue aussi auprès de nos clients. Et on leur explique, justement en leur expliquant qu'il faut y aller doucement, eh bien, on se constate que finalement, ils sont assez sereins. Et on n'a pas constaté de gens qui sortaient plus dans cette période qu'avant. On n'a pas non plus constaté moins d'ouverture de compte qu'avant. Et ça, c'est d'une certaine façon, ça veut dire qu'on a réussi. Éduquer les clients et surtout à les faire investir des montants qui sont conformes à ce qu'ils peuvent faire, à ce qu'ils peuvent supporter. En moyenne, nos clients, ils ont 600 euros aujourd'hui investis chez nous et ça croît de 20 à 30 euros tous les mois.
Alors, l'application existe depuis septembre 2020.
Oui.
Vos cibles, au début, c'était les plus jeunes.
Oui.
Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vos clients sont relativement jeunes?
Tout à fait. Nos clients ont majoritairement entre 18 et 35 ans.
D'accord.
Donc
Vous le disiez, c'est des primo-épargnants, en fait.
Des primo-épargnants, des gens qui commencent à travailler. Alors, on n'a pas parlé des frais, mais on a une offre, on a deux types d'abonnements. On a un abonnement qui est totalement gratuit pour ceux qui ont moins de 24 ans, parce qu'on estime que dans la majorité des cas, ce sont des étudiants qui font l'effort de vouloir commencer à épargner, mais clairement, ils ont des moyens limités, donc on ne fait pas payer.
Donc pas de frais pour eux?
Pas de frais pour eux. Et ensuite, on a un abonnement unique pour tous les autres. On paye 1 euro par mois, quel que soit le montant que vous mettiez dans les fonds. Okay. Donc le calcul est vite fait, c'est 12 euros par an, point. Il n'y a pas de droit d'entrée, de sortie ou de choses comme ça.
Ça, c'est très intéressant.
Oui, 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 complètement. Et en revanche, sur les fonds, il y a 1,5% par an. Ce qui veut dire que si vous mettez 1 000 euros sur les fonds, en une année, on va vous prélever 5 euros. Voilà.
D'accord.
Donc c'est comme ça que ça fonctionne.
Ce qu'on gagne.
Oui, vous le voyez pas parce que c'est directement
sur les bénéfices en fait.
Vous le voyez pas parce que c'est directement pris sur le fond.
D'accord.
Donc la valeur du fond que vous voyez dans votre application, c'est déjà une valeur qui est nette de tous ces frais.
Donc,
voilà. Donc c'est C'est effectivement cette population qui est visée et qui a besoin absolument d'épargner, hein, parce que autrement l'avenir est incertain pour ces personnes-là. On sait très bien que les retraites de nos parents sont pas celles de nos enfants, et il va falloir absolument que. Et d'ailleurs, ils en ont bien conscience. Quand on en discute avec eux, on voit bien qu'une de leurs ils ont deux préoccupations, c'est la retraite, qu'est-ce que ça va se passer, comment ça va se passer, et le pouvoir d'achat. Donc, le pouvoir d'achat aujourd'hui, si vous mettez votre argent dans un livret A, vous perdez 4% par an, hein, avec une inflation qui va tourner autour de 5%. Donc, il faut bien avoir de l'épargne de précaution, mais il faut faire attention de pas surinvestir sur ces livrets, parce que la période bénie qu'on a pu connaître, où les taux étaient bas, baissaient tout le temps, et donc, du coup, on perdait pas d'argent sur ces placements sans risque, c'est fini. Donc, il faut se projeter à plus long terme.
Il faut penser à l'avenir. Oui. Donc, 1 euro par mois à partir de 24 ans, pour les plus de 23 ans. Oui. Des frais de gestion de 0,5% par an, vous le disiez, 1 euro par mois après. En termes de performance, donc on le disait, il y a 3 profils, prudent, équilibré et dynamique. Quelle est la performance en moyenne? Est-ce que vous pouvez nous dire une fourchette
bien sûr.
Pour chaque profil?
Bien sûr, bien entendu. Alors, ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'investir des petits montants, ça se fait pas au détriment de la performance. Ça pourrait, après tout. Après tout, on pourrait dire, tiens, c'est un gadget. Mais pas du tout. Les fonds sont parmi les premiers de leur catégorie en 2020 et 2021. Hein, pourquoi? Parce que on a pris la vague du socialement responsable dès le début, et il y a eu un engouement en 2020 et 2021 pour ces supports. Donc la performance du fonds dynamique, par exemple, est de 20% l'année dernière.
D'accord. Okay, c'était la période le voulait aussi.
La période le voulait aussi, bien sûr, bien sûr. Mais malgré tout, on fait 20% et ça fait partie des tout meilleurs fonds de sa catégorie. De la même manière, le fonds Balance fait 11% et le fonds Prudent fait 3%. Voilà, donc ça reste.
C'est des belles performances.
Ce sont de belles performances. Tant mieux pour ceux qui sont là, mais là encore, c'est pas l'objectif. Il est probable que les temps vont être plus durs,
bien sûr,
pour tout le monde. Et ce qui est important, c'est surtout de continuer à épargner.
Voilà sur le
et
long terme.
Et surtout pas sortir, sauf si évidemment on a un accident de la vie. Hein. On peut tomber malade, on peut perdre son travail, on peut avoir besoin de l'argent, mais c'est pas l'objectif quand on se projette à long terme.
Et alors ça, justement, on va parler de la sortie du capital. Comment ça se passe? Est-ce que comment on fait?
Alors c'est simple. Hein. Avec ISMO, avec l'application, vous pouvez investir, mais vous pouvez racheter à tout moment. Donc, si vous voulez tout racheter, vous rachetez tout. Le lendemain, vous avez l'argent sur votre compte. Donc, il y a
en 24 heures.
24 heures. Vous passez l'ordre et 48 heures après, le lendemain, on passe l'ordre sur les marchés. Et le surlendemain, l'argent est sur votre compte.
D'accord. On parlait donc de l'ISR. C'est dès le départ, en fait, que ça a été important pour vous. ISMO privilégie donc l'investissement socialement responsable. C'était une évidence pour vous?
Oui, c'était une évidence. D'abord, c'est en phase avec nos convictions, mais c'est aussi en phase avec la conviction, les convictions de notre population, de notre cible, qui est beaucoup plus consciente que les générations précédentes de l'enjeu, de l'urgence climatique notamment. Donc ça, c'est un premier volet. Donc on est en phase avec le produit est en phase en fait avec les aspirations des jeunes, mais aussi. C'est une transformation de l'industrie qu'on a sentie tout de suite, qui est provoquée et par le régulateur, par les États eux-mêmes. Hein. Toute la réglementation, les investissements des assureurs, tout ça
est en faveur de
l'ISR, et toutes les sociétés s'y mettent, quelles qu'elles soient. Donc c'est inéluctable.
Bon, certaines plus que d'autres quand même, faut le dire.
Oui, alors oui et non. Il faut bien comprendre. Alors, je vais peut-être faire une petite parenthèse sur l'ISR. L'ISR, c'est de trouver les meilleures valeurs dans les meilleurs secteurs au regard de ces critères-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'on fait plus de pétrole ou qu'on fait plus de gaz. Ça veut dire simplement qu'on prend celle qui va le plus vite vers la transition. Vous voyez? Et donc,
on privilégie les bons élèves, en fait.
Les bons élèves. Voilà, c'est ça.
Alors, la société de gestion est agréée par l'autorité des marchés financiers, évidemment.
Oui, évidemment. Ça, c'est une obligation réglementaire. On peut pas gérer de l'argent pour le compte de tiers. On peut pas gérer des fonds si on n'a pas un agrément fort.
Et juste. Oui. Ouais, pardon, finissez.
Donc, qui protège les épargnants, en fait. L'autorité des marchés financiers est un organisme qui est très puissant pour contrôler, justement, que cet argent est bien géré et qu'il n'y a pas un risque pour les particuliers.
Alors, et concernant la sécurité de cette application, parce que parfois la sécurité peut faire peur, oui, sur les applications, sur les smartphones, surtout en ce moment, on parle énormément de cybersécurité avec ce qui se passe, encore une fois, à l'international. Les données sont 100% protégées ?
Oui, bien sûr. Les données sont 100% protégées. On a des protocoles et des systèmes de sécurité qui sont bancaires. D'ailleurs, on a aussi des partenaires qui sont agréés et qui sont aussi qui assurent aussi la sécurité de toutes les données. Je prends un exemple. Par exemple, l'argent, lui, il est conservé. Il n'est pas conservé chez ISMO ou chez Wild Asset Management. Il est conservé chez CACEIS, qui est le Crédit Agricole. C'est le coffre-fort. Donc ça, cet argent, il est là, il est protégé. Et les données, c'est pareil, finalement. Les données de connexion bancaire, parce que c'est ça sur lequel on peut avoir une certaine inquiétude, eh bien... Il y a derrière ça des prestataires qui sont agréés, qui sont audités en permanence et qui ont obtenu l'agrément de l'AMF ou de la CPR pour exercer cette activité d'agrégateur de compte. Donc voilà, donc de ce côté-là, il n'y a pas de risque.
Alors, on va parler de l'évolution d'ISMO. Quelle sera l'évolution sur le court, moyen, long terme ?
Alors, bon, bah d'abord, c'est d'augmenter notre surface clientèle dans notre propre pays, hein, parce qu'on n'a pas fini, ça c'est certain. On bénéficie en fait de la couverture européenne dans le sens où on est, à partir du moment où on est agréé dans un pays, on peut distribuer son produit et son service partout en Europe. Donc ça, c'est un axe de développement sur lequel on travaille actuellement. Ensuite, il y aura probablement d'autres services aussi qui viendront compléter l'offre d'épargne pour encore améliorer la récurrence de l'épargne des utilisateurs. Donc là, je ne peux pas trop en parler actuellement, mais on peut imaginer que d'autres petites sources de revenus puissent venir directement alimenter l'épargne de l'utilisateur.
Aujourd'hui, ISMO, c'est combien de collaborateurs ?
C'est 11 personnes.
11 personnes ?
11 personnes. Vous avez une équipe de gestion dont je m'occupe. Hein. Vous avez une équipe de développement qui est relativement forte, puisque nous, on a tout développé. On n'a pas parlé de la solution, mais la solution, elle existe parce qu'il y a une innovation technologique forte. C'est-à-dire qu'investir des tout petits montants, ça a l'air simple, mais en fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué. On a été obligé de supprimer tous les intermédiaires entre l'utilisateur et la banque. En fait, vous avez l'utilisateur, ISMO, et la banque. Or, traditionnellement, si vous avez des contrats d'assurance vie, des choses comme ça, il y a beaucoup plus d'intervenants et c'est beaucoup plus cher. Chaque ordre coûte beaucoup plus cher.
Il y a des frais à chaque fois, en fait.
Exactement. Et nous, c'est pas possible de supporter ces frais puisque on parle de petits montants.
Bah, bien sûr.
Voilà.
Ouais.
Donc là, on a eu un travail très très important pour monter cette plateforme que l'AFG trouve d'ailleurs relativement exceptionnelle parce que c'est un peu l'outil dont devraient se doter beaucoup de sociétés de gestion qui leur permettrait de connaître parfaitement les clients. Parce que nous, on a la connaissance directe de nos clients. En général, une société de gestion distribue ses produits à travers des réseaux bancaires ou des réseaux de conseillers en gestion de patrimoine. Nous, on distribue nous-mêmes notre produit.
C'est direct, en fait.
C'est direct.
Alors, justement, vous parlez de vous. Est-ce qu'on peut savoir, avant ISMO, quel a été votre parcours ?
Oui, bien sûr. Alors, j'ai toujours travaillé dans la finance. J'ai commencé comme ingénieur quantitatif à la Société Générale. Puis ensuite, j'ai fait du trading sur ces produits pendant 10 ans, entre Paris et Londres. Et enfin, je suis devenu responsable de la gestion d'actifs sur les produits structurés à la Société Générale. Voilà, pendant 10 ans aussi.
Donc ensuite, une longue carrière à la Société Générale, commencer.
Oui, une longue carrière. Ensuite, j'ai quitté la Société Générale et avec mon associé actuel, Jacques Lucas, on a créé deux autres sociétés, plus ISMO. Et finalement, on a décidé de se concentrer sur ISMO.
Pourquoi ?
Parce que il y a un vrai besoin de fournir une capacité d'épargne à des gens qui n'en ont pas aujourd'hui.
On sent que c'est vraiment votre souci, ça.
Ah mais oui, mais ça c'est certain. Le fait que en France on est champion de l'épargne, mais on n'épargne pas très bien. Et on a la majorité des Français, 70% environ, pensent que la bourse c'est pas pour eux, hein, que c'est destiné à des initiés.
Que ça fait peur.
Ça fait peur. Et c'est vrai que une de notre mission aujourd'hui, c'est de convaincre les jeunes qu'on ne se crée pas un patrimoine à long terme avec des objectifs, je ne sais pas, de se financer une maison ou de financer l'étude de ses enfants plus tard, enfin que sais-je, en faisant des coups en bourse qui soient gagnants ou perdants. Parce qu'un coup, ils vont être gagnants et un coup, ils vont être perdants. Et puis à la fin, ils vont être perdants de toute façon, puisque les études montrent, une étude de l'AMF qui date un petit peu, donc il serait peut-être bien qu'elle la mette à jour, montrait que 85% des gens perdaient de l'argent quand ils boursicotaient. Donc c'est pas ça. Se constituer une épargne ne doit pas créer d'émotion. Mais en revanche, il faut commencer tôt. Quand on est jeune, on a la vie devant soi et donc on doit profiter absolument du fait que les actions versent des intérêts, que les obligations versent des intérêts et que ces intérêts, en étant réinvestis, ce qu'on appelle l'effet boule de neige, fait que à long terme, leur patrimoine va vraiment progresser.
C'est vrai, là, ce que vous dites, je rebondis juste, les émotions, c'est mal quand on veut épargner. Il faut essayer de se détacher de ses émotions, de ne pas avoir peur quand les marchés chutent, surtout ne pas se retirer. Voilà, faut essayer. C'est une lutte avec son ego d'investir.
Oui, alors, l'avantage, quand vous venez chez ISMO, c'est qu'une partie de ce stress, on vous le retire, puisque c'est nous qui faisons les investissements.
C'est vous qui gérez.
C'est nous qui gérons. Maintenant, c'est vrai que nos investissements aussi peuvent baisser, et comme ils peuvent monter, ils suivent les marchés, c'est assez logique. Mais du coup, le deuxième volet sur lequel on insiste, c'est le fait d'épargner en fonction de sa capacité. Il ne faut jamais surinvestir, surépargner, hein, parce qu'on prend des risques. Si vous avez de l'argent à investir sur 6 mois, il ne faut pas venir chez ISMO. Hein. C'est trop risqué. Quelqu'un qui viendrait sur un de nos profils pour 6 mois, alors qu'il aurait absolument besoin de cet argent au bout de 6 mois pour financer un autre projet, prendrait un risque totalement inconsidéré.
Oui, on épargne avec de l'argent dont on n'a pas besoin.
Exactement. On réduit un petit peu sa consommation actuelle pour financer sa consommation future.
Une consommation actuelle de choses dont on n'aurait pas besoin au final.
Dont on pourrait ne pas avoir besoin au final.
Vous parliez des Français, justement. Les Français qui épargnent beaucoup, qui ont énormément épargné pendant les confinements. Je reprends vos propos. Les Français épargnent beaucoup, mais épargnent mal. Quel pays pourrait nous donner des leçons ?
Oh, c'est une vaste question, mais c'est vrai que les pays anglo-saxons ont une culture de l'investissement qui est bien supérieure à la nôtre. Ils ont beaucoup moins de produits administrés, hein, ils ont beaucoup moins de livrets, de produits type assurantiel, des trucs comme ça. Donc, dès qu'ils sont en âge de travailler, finalement, ils commencent à épargner. Okay. Et là, il faut faire attention quand on dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus pendant la période de confinement. Effectivement, l'AMF dit qu'il y a plus d'un million, près de 2 millions de nouvelles personnes. Et ce sont les nouvelles générations, justement, qui arrivent et qui ont investi en bourse, donc que ce soit des crypto-monnaies ou que ce soit des actions, avec le fort rebond qu'il y a eu. Évidemment, ils ont gagné, ils ont profité de l'effet d'aubaine, ils ont gagné énormément. Enfin, ils ont gagné beaucoup en termes de performance, en tout cas. Et c'est là qu'il faut être très prudent, parce que un scénario à la 2000 pourrait, je n'ai pas de boule de cristal, mais pourrait ressurgir. Et à ce moment-là, toutes ces personnes-là seraient à nouveau éjectées de l'investissement. Ils seraient probablement dégoûtés d'avoir perdu de l'argent. Et pour eux, la bourse, c'est j'y suis allé une fois et j'irai plus jamais. Mmh. Et ça, il faut absolument éviter ça. Et la seule façon de le faire, à notre sens, hein, c'est vraiment d'y aller petit à petit. Le danger aussi quand vous investissez et que vous gagnez tout de suite de l'argent, c'est que vous avez tendance à lever toutes vos barrières de prudence.
Oui. Hein, un peu comme on gagne au casino,
voilà,
c'est une drogue.
On a un sentiment de puissance et puis là, on peut tout perdre en fait.
Bien sûr.
On
sent vraiment que ça vous tient à cœur. Un peu une passion, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est ce qui vous a poussé à entreprendre ?
Oui. Oui, parce que oui, clairement. Enfin, il faut bien voir une chose, c'est que dans toute ma vie, en fait, j'ai créé des choses. Alors, ça a l'air d'être curieux parce que j'ai travaillé très longtemps à la Société Générale, mais à la Société Générale, on avait la possibilité de créer un peu tout ce qu'on voulait. Hein, c'était l'époque bénie des marchés quand j'y étais. Et puis ensuite, même dans l'asset management, on a créé des produits, si vous voulez, des produits tailor-made. Énormément de produits qui font appel aux mathématiques et qui demandaient aussi de constituer des équipes, de constituer des équipes de contrôle, de développement, autre chose comme ça. Donc en fait, ISMO, c'est le prolongement de tout ça. On ne fait pas grand-chose d'autre. La seule différence, c'est que les financements ne sont pas tout à fait les mêmes. Quand on est à la Société Générale, on a plus de financement que quand on doit tout construire soi-même.
Est-ce que la Société Générale vous a éduqué est-ce que ça vous a permis de devenir l'entrepreneur que vous êtes aujourd'hui ?
Oui, clairement. La Société Générale laissait beaucoup d'agilité aux gens, en fait. On pouvait faire beaucoup de choses. Alors, c'est vrai qu'après 2008, cette forme d'agilité, les banques l'ont un petit peu perdue. Et au profit des fintechs, justement, les fintechs se sont engouffrés là-dedans. Bon, c'est comme ça. Mais c'est clairement dans la continuité de ce qu'on a pu faire. Oui, ça, c'est sûr.
Et quel conseil vous donneriez justement à des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ?
Alors, c'est que c'est toujours plus... Enfin, d'abord, le constat, c'est que c'est toujours plus compliqué que ce qu'on pouvait anticiper, surtout quand on vient d'un univers bancaire où finalement on avait, comme je le disais, un peu des ressources comme on en voulait pour développer des business. Là, c'est totalement différent. La moitié du travail consiste à trouver des financements pour développer.
Et on se retrouve seul, en fait.
On se retrouve seul, oui, un petit peu, mais après, ça dépend aussi du type d'activité que vous montez. Si vous montez une activité qui est B2C, un peu comme la nôtre, c'est plus compliqué. Les enjeux sont... Enfin, en cas de succès, les enjeux sont bien supérieurs, mais
Les clients sont plus compliqués à trouver ?
Oui, probablement. Et puis, les financements sont plus compliqués. C'est-à-dire qu'en France, le B2C est pas facile, alors que si vous avez une bonne idée de B2B, là, pour le coup, vous allez les trouver, les financements.
Ah oui ? Oui. Ouais. Comment vous expliquez ça, qu'on prête plus...
Le B2C, c'est plus risqué, parce que quand vous faites du B2B, en général, vous avez déjà un ou deux clients qui s'est présenté, vous avez déjà une plateforme, et donc trouver les financements, c'est plus facile. Le B2C, c'est beaucoup plus aléatoire, parce que vous avez un service. D'abord, si vous n'avez pas de clients, parce que vous démarrez, en fait, on doit vous faire confiance sur l'idée et sur l'équipe. Donc ça, c'est une première chose, mais c'est pas toujours facile à vendre. Et puis ensuite, bah, il y a l'événement concurrentiel, il y a tout cet environnement qui fait que c'est pas toujours couronné de succès. On a vu dans le passé des sociétés qui ont commencé à bien démarrer et puis qui finalement ont plus ou moins disparu. Donc ça, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Mais finalement, nous, on est extrêmement motivés. On a clairement un avantage technologique, je pense, sur ce qu'on a fait. On a donc un train d'avance, et parce que finalement on est les seuls à proposer cette possibilité de faire des petits montants, hein, c'est pas parce que ça se fait pas comme ça, et c'est la combinaison de talents. On a une équipe informatique avec quelqu'un qui est absolument génial à sa tête, et puis on a aussi toute l'expérience qu'on a pu accumuler qui permet justement de décortiquer tous ces mécanismes et d'en extraire en fait j'allais dire la substantifique moelle, mais c'est quasiment ça finalement.
On sent que vous êtes fier d'Ismo, votre bébé, mais aussi de votre équipe.
Ah oui, c'est clair. On a une équipe qui est relativement mixte, avec des jeunes, des gens plus âgés. Tout ça, c'est vraiment un plaisir.
Merci infiniment, Philippe de Gouville, fondateur d'Ismo. Merci d'être venu sur notre plateau.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Objectif Startup, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.